vais présenter un petit peu à présent un culte. De quoi donc s'agit-il? Il faut repartir de 2004, une année au cours de laquelle Jérôme Schmitt, Oliver Roé, Benoît Morère et Maxime Béré créent la revue Inculte, après avoir fait la connaissance, après avoir fait connaissance et travaillé ensemble pour le magazine Chronicat. Ils quittent ensemble le magazine en 2003 et donc créent cette revue. Alors cet aperçu historique, disons, me paraît important. Car il éclaire en partie les particularités de la revue Inculte qui ne ressemble pas à une revue littéraire classique. Jérôme Schmitt, qui est à l'initiative du projet, conçoit d'abord la revue Inculte comme un magazine culturel. Et c'est le manque de financement qui conduit à penser le projet comme une revue littéraire. Alors, il me semble que la quatrième de couverture, que je vais lire, témoigne de cette ambivalence première entre revue et magazine. Je la lis. « À mi-chemin entre la revue et le magazine, Inculte propose tous les deux mois un large panorama sur la littérature et la pensée contemporaine à travers un long entretien, des interventions d'écrivains, un dossier complet et des notes de lecture. » Alors, on reviendra sur ces caractéristiques. Ce qui est intéressant, c'est que le projet est d'abord soutenu par Jean-Claude Fasquelle, l'ancien PDG de Grasset. La revue est diffusée et distribuée par les Belles Lettres en librairie, puis Actes Sud prendra par la suite le relais. Alors, aujourd'hui, on compte 20 numéros d'Inculte qui sont parus entre 2004 et 2010. La revue s'annonçait bimestrielle, elle sera davantage trimestrielle. Donc, comme je l'ai dit, elle prend fin en 2010. Là aussi, on pourra peut-être s'interroger sur les raisons de cette fin. À côté de la revue, ou après la revue, le collectif Inculte développe un catalogue très ambitieux depuis 2008. Mais là aussi, ça ne va pas sans difficulté. Les éditions Inculte subissent une liquidation judiciaire en juillet 2014. Bon, je le dis parce que c'est dit par ailleurs de façon publique sur votre page.
Tu vas faire toutes les étapes juridiques?
Non, je ne vais pas faire toutes les étapes juridiques, mais ça me paraît non négligeable non plus. Alors, les éditions sont relancées actuellement par le libraire Jérôme Dere, l'ancien libraire, pardon, et cofondateur du réseau Libresse, qui veut perpétuer l'esprit du collectif à partir de cette nouvelle structure Inculte Dernière Marche. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des différentes collections développées par les éditions Inculte ces dernières années, mais on se penchera en revanche sur les publications du collectif Inculte dans la mesure où elles prolongent cet esprit du collectif en dehors de la revue. Alors, ma première question portera sur la façon dont s'est constituée la revue à ses débuts. Oliver Roé, que j'ai interrogé par mail pour connaître un peu la genèse en fait, de la revue, me disait que vous étiez rencontrés dans des festivals. Alors, ça me semble intéressant, puisque c'est cette nouvelle sociabilité du littéraire qui semble fondée sur la visibilité, aujourd'hui, hein, d'être en festival, qui semble être à l'origine du projet. Alors, est-ce que vous étiez lu avant ou est-ce que c'est la rencontre qui a déclenché le désir de se lire et d'écrire ensemble?
On a un micro pour deux, comme si on chantait. Hein. Ça s'est passé en plusieurs temps, en fait, parce qu'évidemment, quand on relit un peu l'histoire comme ça, à presque 15 ans de distance, quand on est 15, mais 13 ou 14, on a l'impression qu'il y a eu un moment comme ça, crucial et décisif, mais évidemment le tout s'est passé sur plusieurs mois. Il avait en effet été d'abord question, pour ceux qui n'avaient pas participé à l'aventure de ce magazine qui s'appelait Chronicard, de remonter un mensuel, je crois que c'était culturel, un petit peu aussi dans un truc de réaction par rapport à le départ qui avait été le leur de cette structure-là. Ils ont voulu un peu monter la structure concurrente, ils se sont très vite rendu compte que c'était une très mauvaise idée. Donc c'était pas tout à fait, ils se sont pas rabattus sur le littéraire à défaut de pouvoir faire une revue culturelle parce que c'était trop cher. C'est aussi tout simplement qu'ils se sont rendu compte que les enjeux intellectuels qui étaient les leurs étaient à ce moment-là plus solubles dans une aventure proprement littéraire que dans quelque chose de plus éclaté sur le plan culturel. Alors, moi j'ai été associé en fait au projet d'emblée parce que j'ai rencontré la petite bande en question à l'occasion de la sortie de mon premier roman en 2002. de façon très simple, et ça rejoint un peu ce que tu as dit sur les festivals. Moi, il m'avait invité en fait à faire une lecture lors d'une sorte de manifestation qu'ils avaient organisée, qui se passait pour partie à La Cigale et pour partie à Main d'œuvre à Saint-Ouen, je crois. Et c'est là qu'on s'était rencontrés, en fait, surtout avec Oliver, je connaissais déjà un peu Jérôme avant. Donc tout de suite, j'étais en fait associé à leur projet. Et quand on a commencé à réfléchir à comment faire notre premier numéro de la revue, on s'est tout simplement retrouvés et on a mis sur un petit bout de papier une certaine liste de noms d'auteurs, de jeunes auteurs de préférence que nous lisions et dont nous avions fait la rencontre d'abord par le biais de leurs livres et éventuellement aussi humainement récemment, parmi lesquels figuraient des gens comme Arnaud Bertinat, comme Mathias Sénard, comme François Bégodeau. Et donc ce sont ces personnes-là qu'on a ensuite contactées. Alors je crois, mais ça tu vas en parler mieux que moi, que l'un des moments finalement importants de la constitution de ce groupe initial a été le festival du premier roman de Chambéry, où j'avais l'honneur de ne pas être invité. Donc c'est plutôt c'est là que tu as rencontré Oliver, hein, je crois.
Non, c'est à Bron.
C'est à Bron. Peut-être tu veux.
Oui, parce que déjà dès maintenant, je suis d'accord à peu près avec rien de ce que tu viens de dire. Oui, moi j'arrive juste un tout petit peu après, et effectivement c'est parce qu'on avait, on était invités ensemble à Bron, qui est un festival de la banlieue de Lyon, et en fait c'est anecdotique, mais moi je trouve ça beau, je trouve l'anecdote belle. C'est une de mes 3 ou 4 meilleures soirées de copains en fait, alors que je les connais absolument pas, c'est-à-dire on était dans le hall d'un hôtel Formule 1, dans une zone qui est autour de l'hippodrome de Bron, c'est pas sortir, c'est pas possible, etc. Et on a ri comme des baleines ce soir-là, et toute la nuit, et c'était vraiment à la fois très gamin, et puis il y avait quelque chose de fort qui se passait. Et puis il y a eu une deuxième soirée comme ça à Paris, et en fait, la proposition d'Oliver, elle est venue tout de suite après, le numéro zéro n'existait pas encore, et donc on est devenus amis en fait en faisant la revue. Et même pour caricaturer un peu encore plus, pour forcer le trait, on a commencé à se lire en faisant la revue. C'est-à-dire que oui, il y avait peut-être un ou deux qui avaient lu tel ou tel livre, etc. Mais c'était vraiment pas ça le cœur du problème en fait. C'était surtout que la rencontre avait fait un peu des étincelles et que à partir de ce moment-là, quand on passe une aussi belle soirée, on se dit qu'obligatoirement on a quelque chose à faire avec la personne. Alors on ne sait pas si ça va durer une nuit ou si ça va durer 10 ans, mais il y a des énergies là qui se rencontrent, et il n'y a rien de plus beau que de concrètement faire quelque chose et puis d'éprouver cette énergie-là en faisant quelque chose. Donc ça veut dire aussi, sur un plan un peu moins anecdotique, ça veut dire aussi que on a commencé à se demander ce qu'on allait faire ensemble qu'en le faisant, c'est-à-dire qu'on récupère une coquille totalement vide à ce moment-là. Mais existait déjà le nom, parce que c'est Jérôme, je crois, qui voulait appeler ça un culte, mais il ne nous l'expliquait même pas, et donc c'était à nous de l'investir et de l'habiter, ce nom, et de lui donner même une direction, parce que c'est un nom bizarre, qu'on continue non pas de nous reprocher, mais on continue d'en pointer le caractère un peu tordu, puisque... dans certains numéros de la revue, il y a des choses très érudites. Il y a des articles sur Hölderlin, sur Heidegger, et puis ça côtoie des choses très très potaches, etc. Bon, on reviendra sur ça, mais donc il faut l'assumer, ce nom-là. Et donc en fait, c'est seulement au fil des numéros, à force de se demander ce qu'on était en train de faire, qu'on a réussi à l'assumer pleinement. Mais la coquille existait déjà avant.
Alors justement. Avant de revenir peut-être aux significations du nom à un culte, on va essayer de réfléchir, de repenser aujourd'hui. Il y a eu la première scène donc, du festival, il y a la deuxième scène de publication qui est la revue elle-même. Je voudrais revenir sur la présentation matérielle de cette revue qui n'est pas ordinaire, déjà par son format poche, 11 x 17 cm, c'est une couverture très surprenante, je ne sais pas pour ceux qui connaissent un petit peu, au fil des numéros, on voit apparaître tout un bestiaire monstrueux, incongru, On a même le chien de Michel Houellebecq qui fait son apparition. Bon, on a des rubriques qui relèvent plus du magazine peut-être que de la revue. Le coût est modeste. Il me semble que vous jouez quand même sur les modes de visibilité du magazine. Alors pourquoi avoir maintenu cette hybridité revue-magazine dans quel but en termes de distinction de la revue par rapport à d'autres revues existantes?
Au fond, je ne crois pas qu'elle y soit vraiment, cette hybridité, parce que c'est quand même une revue et que justement un magazine ne pourrait pas avoir cet aspect physique-là. Tout le côté luxueux que peut avoir un magazine, les photos, le papier glacé, etc. Évidemment, c'est absolument pas présent dans cet objet-là. Non, il y avait quelque chose d'assez... il y avait deux réalités. Il y avait d'abord le fait qu'on a monté un culte, ce qui explique les liquidations judiciaires ultérieures, avec 300 euros. Ce qui est une mauvaise idée. Je voulais monter une structure... Pour monter une structure éditoriale, il vaut mieux partir avec un peu plus de 300 euros. Et on a beau avoir tenu 10 ans avec cette mise de départ, en fait, il s'avère que c'était plutôt une erreur. Mais
on creusait notre tombe, en fait.
Oui, c'est un peu. Oui, on a creusé longtemps et profond.
Bah oui, mais on était nombreux, donc
il fallait nous en passer. Bon, donc ça, c'est vrai que c'est un premier élément économique qui faut prendre en compte. Le deuxième était que c'est un moment où les revues littéraires qui fleurissaient étaient souvent justement de très beaux objets, volumineux, luxueux, ambitieux aussi dans leur aspect graphique et matériel. Et on a résolument voulu prendre le contre-pied de ça en faisant un objet finalement très léger, très cheap, qui pouvait rentrer dans une poche, qui était d'un volume relativement limité, avec des articles. Bon, ça, c'était pas concerté exactement comme ça, mais c'était quelque chose qui était déjà dans l'esprit, qu'on pouvait lire en un trajet de métro, quoi. C'est-à-dire quand même quelque chose un peu rubriqué, comme ça, avec une sorte de souplesse, de malléabilité la plus grande possible. Donc voilà, donc c'était les deux éléments qui en fait ont plus ou moins présidé à ce choix de forme. Quant à celui des animaux moches en couverture, ça c'est encore autre chose, je ne sais pas exactement comment c'est venu. Non, bah, certains ils sont très moches quand même.
C'est un petit peu inquiétant.
Par contre, le corgi, c'est un corgi de Michel Houellebecq, ça c'est une histoire assez amusante, puisque c'est Jérôme justement qui... probablement en fin de soirée d'ailleurs, a envoyé un mail à Michel Houellebecq en disant « Écoutez, vous voyez, notre revue a des animaux en couverture et on aime beaucoup le vôtre. Est-ce que vous accepteriez de nous envoyer une photo de votre chien pour qu'il figure en couverture ?» Et Houellebecq a répondu « J'ai regardé votre revue, votre travail est assez sérieux pour ne pas nuire à l'image de mon chien. » Avec une photo.
Mais pour le coup, ce côté cheap, c'est pareil, il est pas, au final, il n'est pas si anecdotique parce qu'il va bien avec l'état d'esprit du travail qu'on voulait faire. C'est-à-dire, d'abord, il y avait l'idée un peu d'un objet pauvre au sens que pendant longtemps, la revue, c'était une sorte d'atelier à ciel ouvert, quoi. Donc il fallait qu'on puisse pénétrer dedans facilement, qu'on n'ait pas l'impression tout d'un coup de rentrer dans un espace un peu sacré. Il ne s'agit pas d'un musée, il s'agit de quelque chose qui est en train de se faire, donc il y a encore des traces de colle et de peinture un peu partout, et c'était pleinement assumé. Donc il ne fallait pas que ce soit un objet impressionnant, il fallait aussi que ce soit un objet qui peut-être puisse emprunter à différents codes, de manière à ce que quantité de regards différents puissent se retrouver à l'intérieur. C'est-à-dire que dès le départ, on voulait que ça ne soit pas strictement littéraire, que ça puisse être... Évidemment, c'est littéraire, mais que ça puisse être au moins à la croisée d'autres champs, et que donc ne pas emprunter uniquement au code de la revue littéraire. Et puis, cette histoire de sacré, elle s'est mise à beaucoup, beaucoup nous travailler, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que ce qui nous reliait, peut-être, c'était de refuser à la littérature cette fonction-là, un peu dans l'espace social, quoi. Cette fonction un peu sacrée, un peu sérieuse, un peu grave, etc. Et plus on a voulu développer un peu une partition un peu potache à l'intérieur du collectif, plus la forme nous a convenu, en fait. C'est-à-dire en étant pauvre comme ça, en étant périssable comme elle l'était, elle cadrait bien avec l'idée que même si on était totalement investis tous dans une passion littéraire, une recherche littéraire, on ne demandait pas aux lecteurs de la revue, et par rebond, on ne demandait pas non plus aux lecteurs des livres que l'on pouvait écrire tout seul, d'aborder ça avec gravité, un respect a priori, enfin tout ça, il fallait arriver à désamorcer ce truc-là, qui dans la littérature française est vraiment quand même encore aujourd'hui, qui est quand même très très présent, quoi. Beaucoup d'auteurs capitalisent sur ça, beaucoup de...
Je t'enlève le micro, du coup, c'est un peu gênant. Oui, je ne sais pas si ça l'est autant, ceci dit, qu'il y a 15 ans, même si à l'époque où on a lancé un culte, je crois que c'était très très présent et que c'était aussi un peu en réaction à ça, et par une certaine manière d'investir le nom à un culte aussi, qu'on a fait ça. L'objet était, pour finir sur son aspect matériel, ça nous permettait aussi d'avoir une périodicité assez, assez irrégulière finalement, parce qu'au début on a dit on va en faire un tous les deux mois, on s'est très vite rendu compte que malgré toute notre bonne volonté et notre énergie de jeunes hommes et jeunes femmes à l'époque, c'était quand même très très difficile à tenir comme périodicité, donc ça nous a permis aussi un petit peu d'étaler...
Pourquoi en disant jeune femme à l'époque, tu me désignes...
On en parlera à ça un peu plus tard. Après, non, il y a juste une chose qui n'a pas été mentionnée, c'est que l'idée de créer un collectif n'était pas là dès le premier numéro, mais à cause des soirées dont parlait Arnaud tout à l'heure, elle était là dès le deuxième. C'est-à-dire que tout de suite, on s'est dit, finalement, il y a deux politiques possibles. Soit on ouvre le sommaire à un maximum de gens possibles et on trace une sorte de panorama qui soit aussi un petit peu le reflet de nos lectures, de nos engagements, de nos intérêts ponctuels. Soit au contraire, on essaie de faire quelque chose en commun avec un groupe un petit peu circonscrit. Ça ne veut pas dire qu'il est fermé, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pour eux à de nouvelles rencontres et encore moins à l'invitation d'auteurs extérieurs. Mais il y a eu comme ça... l'idée que bah, finalement, puisqu'on s'entend si bien, on va voir ce que ça donne sur un temps un petit peu plus allongé, un petit peu plus périodicisé et en prenant le pari d'une production concrètement en collectif et en commun.
Alors justement sur cette question du collectif, quand on feuillette la revue, on note une grande variété des intervenants, des penseurs convoqués qui sont parfois qui exposent des vues parfois divergentes, une grande variété dans les tonalités, on en a parlé, dans les types de textes, textes de fiction, textes théoriques, textes critiques, types de discours également, histoire, philosophie, sociologie, tout ça au nom d'une inventivité formelle. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui va relier les membres du collectif en l'absence donc d'options esthétiques communes, en l'absence d'une figure de leader qui rassemblerait, si ces figures d'autorité sont devenues caduques, on le sait, en l'absence d'une posture d'avant-garde finalement, est-ce qu'il n'y avait pas l'écueil d'une simple juxtaposition de textes qui serait le lot d'une revue littéraire, disons, conventionnelle? Là ici, il y a la revendication d'un collectif. Donc qu'est-ce qui fait le ferment du collectif?
En fait, pas dès le premier numéro, mais très très vite, on nous a demandé un texte manifeste. On nous a demandé de faire une préface, justement pour répondre à cette question-là. Et précisément parce qu'on nous l'a demandé, mais vraiment très clairement, tout de suite notre réflexe a été de dire qu'on n'en avait pas envie, en fait. On ne voulait pas, tout d'un coup, d'abord, on ne voulait pas lancer une guerre, par exemple, contre une génération précédente. On ne voulait pas lancer une guerre contre un autre courant. Tout ça, c'était des modes d'assignation à un endroit sur l'échiquier littéraire, et ça nous semblait terriblement étroit. On avait tous envie de respirer un peu plus large et pas simplement d'être à un endroit de l'échiquier littéraire. Ça, je pense que c'est un réflexe un peu de vie que beaucoup de revues peuvent avoir aussi. On n'est pas les seuls sur ce terrain-là. Et on aurait pu, parce qu'on a tous comme ça, on s'est tous articulé un discours critique et tout, donc ça aurait été assez facile. En plus, cette langue-là de la polémique, du pamphlet, du désengage, du procès intenté à un tel ou un tel, c'est une langue qui est très connue, donc je veux dire, on aurait été comme un poisson dans l'eau si on avait voulu écrire ça. Mais... Oui, ça nous ennuyait d'emblée, quoi. C'était et donc, il y avait le désir de dire... Ben, c'est l'ensemble de ce qu'on va faire ensemble qui vaudra peut-être manifeste ou art poétique ou je sais pas quoi, mais ne le faisons pas nous-mêmes parce que ce sera d'emblée restreindre le champ. Et ce sera d'emblée donner des grilles de lecture là où on aimerait qu'il y ait un petit peu de surprise. C'est là vraiment, on n'a pas écrit ce texte et ça ne nous a posé aucun problème. Ça n'a jamais été une tentation.
On n'a jamais voulu définir une position d'emblée. On a voulu que ce soit ce qu'on fait qui désigne pour nous éventuellement une position. quant à ce qui nous réunit, du coup...
Ensuite, on peut le dire quand même, maintenant.
Oui, bah maintenant, on se rend mieux compte de la position qu'on a définie en acte. Et bien sûr que, quand je dis ça, il n'y a aucune innocence là-dessus. Ça ne nous empêchait pas de réfléchir ni à ce qu'on lisait, ni au champ dans lequel on opérait, ni, de fait, à l'endroit où on se trouvait dans ce champ-là. Mais c'est vrai que quand on nous demande ce qui nous réunit, ça peut paraître un peu décevant, mais en fait, pour nous, ce sont des liens beaucoup plus forts que s'il y avait eu quelque chose de manifeste. Ce sont des humeurs, ce sont ces liens d'amitié dont parlait Arnaud, qui sont très forts et qui sont quotidiens, parce qu'en fait, un culte, c'est quoi? C'est un groupe de gens qui s'échangent des mails continuellement toute la journée. C'est avant tout ça, en fait. C'est pas grand-chose de plus. Mais ça, c'est déjà important, parce que, précisément, ça crée un compagnonnage. Et quand ce compagnonnage, il se développe sur plus d'une dizaine d'années, ça suffira pour l'instant, on verra ce qu'il en sera plus tard, mais évidemment que c'est une façon de se connaître, de faire circuler des idées, de faire circuler des références aussi, quelque chose qui est très important. Il y a des auteurs que nous avons aujourd'hui tous lus de bout en bout, on en parlait à midi, j'ai lu tout Claude Simon par exemple, je crois qu'il n'y a pas un livre de Claude Simon que je n'ai pas lu, mais je les ai lus à l'époque où je faisais partie d'un culte. Et ce n'est pas tout à fait anodin, puisque certains d'entre nous faisaient la même lecture au même moment, ou certains d'entre nous avaient lu Claude Simon et ont plus ou moins incité les autres à le faire. Et donc là, je parle de Claude Simon parce que c'est vraiment une référence centrale et commune, mais il y en a d'autres comme ça, et d'autres qui sont parfois plus marginales aussi. Donc il y a aussi tout ce travail de lecture, pour le dire autrement, qu'on a fait en commun, simultanément, parfois en étant d'accord, parfois en n'étant pas d'accord. On a fait un volume, par exemple, de réflexion sur l'œuvre de Bernard Lamarche-Vadel, qui est un romancier que j'estime beaucoup. Et par exemple, j'avais demandé à Claro de lire un livre de Lamarche-Vadel pour éventuellement participer au volume en question. Et Claro, là, lui, m'a dit non, mais je veux pas du tout ton truc, j'ai pas du tout envie d'en faire partie. Donc voilà, il s'agit pas de dire qu'on a absolument le même corpus de référence et qu'on ne va pas en déroger. C'est cette circulation qui joue beaucoup. Donc c'est vrai que c'est peut-être... moins facile à articuler, comme tu le disais tout à l'heure, qu'un discours vraiment préconçu, mais c'est pas moins solide.
Pourtant, Mathieu, tu publies en 2009 un texte dans la NRF intitulé « Proposition pour une littérature inculte » qui répond à un texte d'Alain Roquerier paru en 1956, « Une voix pour le roman futur » dans la même revue. C'est une étape importante en termes de visibilité de la revue, on ne peut pas le négliger. Il me semble, mais je fais exprès pour provoquer ta réponse, il me semble qu'on n'est pas loin quand même du manifeste, si l'on en juge par les choix d'énonciation qui sont les tiens dans ce texte et par la tonalité globale. On est loin de l'humour dont tu fais preuve par ailleurs dans la revue Inculte. Il me semble que c'est un texte assez sérieux, j'invite ceux qui sont là à aller le lire. Je ne semble pas avoir vu beaucoup de traces d'humour dans ce texte. Alors, tu es le seul à le signer. Est-ce que ce texte a fait l'objet d'une relecture collective? Est-ce que...
Je veux bien répondre. Non, mais je réponds sans du tout provoquer Mathieu en disant ça. Mais c'est justement un texte qui nous a posé problème. C'est-à-dire que...
une discussion, en tout cas, oui.
Moi, je sais pas à quel moment j'ai lu le texte, c'est-à-dire est-ce que je l'ai lu avant parution, est-ce que je l'ai lu après parution.
Mais non, tu l'as lu avant. Parce que ça, par contre, je l'ai envoyé à tout le monde.
D'accord. Mais j'ai beaucoup contesté ce « nous », justement. J'ai beaucoup contesté le fait que Mathieu, là, à ce moment-là, faisait quelque chose qu'on avait refusé de faire jusqu'à présent. Mais point barre. Donc, encore une fois, on a tous gardé notre liberté de parole. Ce qui compte, c'est que même quand il y avait comme ça un écart comme ça, ça pouvait donner lieu à des engueulades. Mais que c'est pareil, on n'allait pas nous-mêmes être tout d'un coup plombés par un esprit sérieux qu'on avait contesté jusque-là. C'est-à-dire, bon, bah, il fait ça... ça va, c'est pas la fin du monde, ça annule pas les numéros de la revue qu'on a fait, enfin, par exemple, des trucs comme ça.
Surtout, il y a différentes choses sur ce petit texte. D'abord, et je t'avais déjà répondu à peu près la même chose à ce moment-là, j'avais envoyé ce texte à tout le monde, non pas pour validation, donc pas pour faire manifeste, parce que ça aurait impliqué que tout le monde le valide, mais pour que tout le monde soit au courant et me dise aussi éventuellement ce qu'il en pensait, ce que je pouvais y changer. Quant au « nous », je l'ai laissé parce que, en fait, c'était autre chose, c'est que c'était cohérent avec mon travail. Parce qu'en fait, tous mes livres sont énoncés au « nous ». Et donc je ne voyais pas pourquoi d'un seul coup je me mettrais à dire je sous prétexte que j'écrivais dans la NRF, première chose. Et deuxièmement, c'est pour moi un nous qui n'est absolument pas représentatif du collectif au nom duquel je parlerai, parce que je ne suis pas habilité à parler au nom d'un collectif qui ne demande à personne de parler en son nom commun. Mais c'est un nous qui plutôt englobe le lecteur. La première phrase, si je me souviens bien, c'était quelque chose comme « le sort du roman nous indiffère ». Évidemment, ce nous, ce n'est pas nous inculte. C'est moi en tant que j'écris le livre, mais éventuellement aussi là où on se positionne et là où je propose au lecteur de se positionner avec moi. Et par ailleurs, c'est aussi évidemment une réflexion et une réponse, et bien sûr, au texte de Rob Grillet, qui était quand même le prétexte initial à mon petit truc, là, ce texte, je ne sais pas comment appeler ça.
Alors, une autre question qu'on peut aussi se poser, c'est à partir de cette création d'un collectif, dans quelle mesure le fait de créer un collectif aujourd'hui n'est pas une façon de gagner en visibilité pour des jeunes auteurs, hein? Est-ce qu'il n'y a pas un appel, disons une demande de collectif plus importante qu'avant? Est-ce que ça vous aide à davantage, disons, être visible sur les scènes littéraires?
Non, mais alors il y a plusieurs aspects. C'est évidemment pas la question qu'on s'est posée au moment de le faire. C'est-à-dire encore une fois, au moment de le faire, il y a un geste qui est un peu plus innocent que ça. Ensuite, pendant toute la durée de la revue, c'est resté relativement confidentiel. Et l'audience d'un culte, en fait, elle existe depuis que la revue n'existe plus. Donc il y a aussi là quelque chose qui est un peu troublant, y compris dans la presse.
C'est peut-être pas une coïncidence d'ailleurs.
C'est peut-être pour nous remercier d'avoir arrêté. Ouais. Non, mais ça c'est un point important. Ensuite, inévitablement, bien sûr, le fait que ça intrigue. Donc le fait que ça intrigue, ça a rendu au fur et à mesure les gens un petit peu attentifs à ce qu'on pouvait faire. Et par contre-coup, ensuite, ça a rendu attentif aux individualités qui composaient le truc. Mais je pense que dans un premier temps, c'est beaucoup plus innocent. Et si je prends mon exemple, si je peux me permettre de prendre mon exemple, la question du collectif, elle était quasiment appelée par mes premiers livres. C'est-à-dire que à chercher dès le premier, qui s'appelait Le Dehors, à chercher à multiplier les voix autour d'un même événement, à essayer de contester le fait qu'il puisse y avoir une voix qui domine l'ensemble et qui détienne une forme de vérité par rapport à l'événement, à refaire ça ensuite dans un deuxième bojo qui est autour de l'opéra et de la multiplication des voix et des strates de polyphonie à l'intérieur. Tout ça, ça amenait naturellement vers un culte. Et entre-temps, juste avant, j'ai aussi fait un truc sous pseudonyme. Le fait que c'était sous pseudonyme, c'était encore une autre manière de rejouer cette envie-là de multiplier les voix. Et c'était aussi justement pour mettre en avant une littérature plus déconnante qui s'opposerait à toutes les traces persistantes d'une forme de romantisme de l'auteur dans la littérature française, etc. Donc, quand ensuite il y a eu cette proposition de revue, alors que je venais déjà de revues, mais qui n'étaient pas des collectifs, c'est-à-dire j'avais déjà beaucoup publié en revue, mais sans que jamais ça devienne des aventures collectives. Là, ensuite, quand il y a eu ça, ben pour moi, c'était totalement évident. C'est-à-dire ce que je cherchais individuellement, cette volonté de me disperser dans les livres plutôt que de me rassembler, et ben là, elle trouvait un terrain qui était démultiplié. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, ça pouvait aller 100 000 fois plus vite. Quand on conçoit ensemble un numéro de revue, je crois que c'est dès le numéro 5, où on décide de faire disparaître les signatures des articles et de fondre tout ça en un seul dossier. Mais c'est joyeux, c'est drôle, mais ça libère énormément d'énergie. Pour peut-être des fois, quand on sait tous que quand on écrit, on se confronte aussi à ses inhibitions personnelles, quoi, c'est-à-dire à ce qui nous limite. Et bien là, tout d'un coup, on a la possibilité, pas uniquement via l'anonymat, mais parce qu'il y a le frottement avec les autres, on a la possibilité de peut-être, au moins dans l'espace de la revue, de faire sauter un petit peu ses inhibitions, d'aller un petit peu vers ce qu'on n'imaginait pas atteindre en étant tout seul. Donc là, il y a une stimulation qui est très très forte et qui se suffit à elle-même. C'est-à-dire que tout d'un coup, à ce moment-là, on n'a plus le regard tourné vers l'extérieur, savoir oh, est-ce qu'ils ont bien vu qu'on était en train de faire quelque chose. Non, en plus, on faisait beaucoup, beaucoup. Donc on n'avait pas trop le temps de se poser de questions sur ce qu'on était en train de faire, parce qu'il y avait la revue, il y avait la réédition de la revue L'Arc, il y avait les volumes critique qu'on était en train de commencer à faire. Enfin, ça n'arrêtait pas.
Plus nos travaux individuels aussi. Et je pense que ce que décrit Arnaud, avec les coordonnées propres à chacun, mais cette dialectique-là entre ce qui s'invente entre l'espace de la revue, cette volonté de collectif qui y affirme, et puis les dispositions au collectif qui étaient celles de chacun et qui étaient éventuellement déjà inscrites même dans leur travail, dans leurs travaux au début de avant même qu'on se rencontre, ça c'est quelque chose qui n'a cessé de jouer. Ce qui fait qu'il devient un peu difficile aujourd'hui, pour ma part, mais je crois que c'est le cas un petit peu pour tout le monde, de distinguer si cet intérêt pour le collectif, la mise en commun, était là avant, ou si c'est un culte qui l'a créé. De toute façon, c'est un processus dialectique qui a valu pour chacun en particulier et pour le groupe aussi.
Alors justement, à propos de ces écritures collectives, il faut quand même signaler ici les livres satellites de la revue, donc Les Devenirs du roman, où on voit cette pratique finalement d'un dialogue impersonnel, anonymé, une chic-fille aussi, une fiction qui vient comme illustrer les propositions, ou disons, oui, c'est des propositions formulées dans Devenir du roman. Et Une année en France, même si ça paraît chez Gallimard, on peut considérer, étant donné les signatures, François Bégodeau, Arnaud Mertina et Oliver Roé, qu'il s'agit d'un collectif, un culte aussi. Ces phénomènes d'écriture collective en France, c'est anonymé comme ça, c'est assez rare. Moi, j'ai pensé au groupe Limite en 1987, qui faisait paraître un recueil de nouvelles avec Antoine Volodine, notamment Jacques Barbéry. Le volume donc s'appelle Malgré le monde. Du côté italien, on a le collectif Looming. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces écritures collectives, sur vos intentions de départ? C'est un projet assez intéressant.
D'abord, il y a un truc à quoi on n'a pas répondu, mais qui est en lien avec cette question-là. Quand tu demandais si être un collectif, ça aidait aux conditions de visibilité de chacun. Si c'était le cas tant que ça, il y aurait peut-être d'autres exemples de collectifs que nous. Donc il se trouve qu'empiriquement, il y a quand même très très peu d'écrivains qui le font. Donc s'ils le font pas, c'est qu'en fait ça doit pas être si favorable que ça aux conditions de visibilité.
Pardon ?
Parce qu'ils sont bien avant.
Mais oui, mais justement, c'est ça la vie d'un collectif. Tiens, bon exemple. Si on prend un exemple, l'un des rares collectifs qui a essayé de se constituer, c'est Evidence. Et comme tu sais, ça a été assez éphémère.
On s'est tous engueulés comme
voilà. Donc, oui, mais tu vois, donc ça prouve bien que même quand la tentative.
Ce qui est étonnant chez vous, c'est ça aussi.
Voilà, c'est qu'il y a un truc qui se fait. Comme on disait tout à l'heure en acte. Alors après, quand on arrive au volume collectif, finalement, bon, c'est quoi? C'est des excroissances de la revue, c'est des moments où on se dit, eh bien, on va encore appuyer le geste collectif en soit s'interrogeant sur l'œuvre d'un auteur, soit s'interrogeant sur la situation de la littérature au moment où on parle. Les devenirs du roman 1. Aujourd'hui, quand on les revoit rétrospectivement, c'est un geste qui était à la fois ambitieux, agréable à faire et en même temps aussi problématique, moi je trouve. Parce qu'on a tenté de faire quelque chose qui était un panorama de nos lectures et qui en même temps laissait de côté certains courants pour en favoriser. Enfin, finalement, notre geste était un petit peu compliqué à ce moment-là. C'était un premier jalon, mais aussi au sens presque expérimental que peut avoir le terme. Bon, on s'est réunis, on a écrit des textes en commun. Il n'y a pas quelque chose de. Au fond, il n'y a pas une proposition très forte qui se dégage de ce livre, hormis peut-être celle qui consiste à essayer de montrer une attention, qui était réelle bien sûr, à ce qui se produisait dans le contemporain, et donc déjà faire ça, c'est aussi une manière de dire qu'on refuse les discours de déploration, les discours qui pensent qu'il n'y a qu'un type de littérature qui vaille, tout.
Oui, non, vas-y. Ça, pardon, mais ça, c'était pour le coup,
oui,
c'était très
conscient
et c'était hyper important.
Oui, ça, c'est important.
Et par exemple, je me souviens, Alain Nicolas nous avait invité à participer à peu de temps après la parution, nous avait invité à participer à un micro-dossier sur la littérature contemporaine. Et en fait, on avait fait un texte qui ne valait pas tellement en tant que texte, mais uniquement parce qu'on l'avait troué d'une vingtaine de livres parus dans les 10 dernières années ou les 15 dernières années et qui nous semblaient être vraiment des chefs-d'œuvre en fait, en littérature française. Et ça, c'est, voilà, ça, c'est un truc qui est apparu aussi au fil du travail. C'était la très grande foi qu'on avait dans la vitalité de la littérature française contemporaine.
Et elle est tellement en permanence, mais de manière c'est presque structurelle, quoi, décriée dans les médias, qui tous les ans font un dossier sur le fait qu'elle ne vaut rien, etc., que pour le coup, là, tout d'un coup, on avait le sentiment de faire un vrai geste, alors que ça nous semblait tellement évident. Et quand on a fait cette liste de 15 ou 20 livres, en fait, on était court, on en avait plein d'autres à citer, et vraiment sans se faire violence, c'est-à-dire en estimant vraiment que c'était des chefs-d'œuvre. Donc tout d'un coup, on s'est retrouvé un peu, avec d'autres, hein, mais on s'est retrouvé à se transformer en espèce de colporteur de la littérature contemporaine, quoi. C'est-à-dire en disant, mais regardez, il y a ça, c'est magnifique, il y a ça, c'est magnifique. Alors oui, c'est pas traduit dans le monde entier, parce que c'est hyper difficile à traduire. Et il faut trouver un traducteur qui, pour traduire Novarina, je sais pas, bon, il faut des traducteurs assez géniaux, quoi. Il faut des bon, ben voilà, tu dis il n'y avait pas de proposition forte, mais il y avait au moins manifesté cette envie-là, ce désir-là, quoi.
Il y avait un désir fort, plus qu'une proposition, ce qui est complètement différent quand on prend le volume qu'on a fait récemment, donc Les Devenirs du roman 2, sous-titré Écriture et matériaux, et alors là, ben, c'est dans le sous-titre, c'est-à-dire qu'on s'est quand même attaché à... pas un pan, mais une tendance particulière de la littérature actuelle qu'on a tenté de nommer et dont on a tenté aussi d'explorer le rapport particulier au réel passant par le biais du document. Donc là, on a un peu restreint notre spectre de lecture pour s'attacher à des pratiques beaucoup plus visées, beaucoup plus ciblées.
Et concernant donc les deux livres que je citais, les livres collectifs, c'est-à-dire la fiction ludique, je dirais, enfin qui représente un peu l'imaginaire pop qui est représenté dans la revue Inculte du côté de la chic fille, donc, le texte qui relève plus d'un essai à plusieurs mains, Une année en France, comment ça s'est passé pour ces volumes-là?
Je vais répondre pour le premier et forcément te laisser pour le deuxième, puisque je n'y étais pas. Une chic fille, moi, ça reste une de mes expériences d'écriture les plus heureuses. Avec Inculte. Ça a été vraiment un moment de partage et de bonheur de partage d'écriture très, très, très intense, parce que je crois que tout était un peu réuni, c'était le bon moment pour mener ce geste-là, il y avait une certaine disponibilité, puis on avait trouvé le bon sujet. On était parti sur cette figure de starlette américaine qui s'appelait Anna Nicole Smith, qui était à la fois un objet très pop et qui en même temps permettait finalement de faire entrer plein de questions sur le corps, des questions politiques, des questions narration, etc. Et c'est vrai que la façon dont on a procédé, dont on s'est échangé les textes, dont on a travaillé tous ensemble, était d'abord très agréable et aussi, je crois, réellement fructueuse, dans un sens presque étonnant pour nous. C'est-à-dire que le livre est organisé de façon très simple. On a suivi un fil plus ou moins biographique, on a identifié des moments, des narrateurs qui étaient les narrateurs de chacun de ces moments, qu'on s'est répartis. Bon, mais quand on dit répartir, ça ne veut pas dire chacun fait ce qu'il veut dans son coin, parce que si la cravate elle est rouge lors d'un chapitre est verte, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cravate, hein, quand même. Qu'elle est verte au chapitre suivant, ça ne marche pas. Donc évidemment, il y a un travail d'entrelecture, de tissage, de coordination et de concertation qui est très fort. Mais une fois ce travail fait, on aurait pu penser qu'on avait des libertés d'écriture, des libertés formelles et des libertés de voix très larges à l'intérieur de chaque texte. Ce qui s'est plus ou moins vérifié, mais il se trouve aussi que quelque chose de très étonnant est apparu au cours de l'écriture, c'est-à-dire ce que j'appellerais une sorte de voix médiane. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé, peut-être à force de se connaître, de se lire, de parler ensemble, on s'est trouvé à écrire une voix qui, quand même, se ressemblait un peu d'un texte à l'autre. Alors ça, évidemment, quand vous voyez la chose se faire, quand vous recevez les textes, vous lisez ça, et que vous voyez que, finalement, vous-même vous en venez à ne plus tellement savoir, à part quand on lit et qui a envoyé le mail, qui est l'auteur du texte, ça, c'est vraiment une expérience d'écriture assez, assez prodigieuse, en fait. Je te laisse pour le suivant.
Ouais, c'est un petit peu la même chose pour le suivant. En fait, à Une année en France, donc c'était un livre qu'on avait sous-titré, je crois, Description politique, quelque chose comme ça. En fait, parmi nos sujets de discussion permanents, il y a tout ce qui concerne l'actualité politique. On se sent tous très très concernés par par l'actualité politique, avec ensuite des modes d'engagement qui diffèrent selon les uns et les autres, mais peu importe, en tout cas on est tous intéressés par ça. Une année en France, donc c'était le résultat un peu de cette passion commune. C'est un livre qu'on a quasiment écrit à chaud, puisque en fait ça concerne l'actualité d'une séquence d'un an qui va du printemps 2005 au printemps 2006, incluant la crise des banlieues, le non au CPE et le non au référendum sur la Constitution européenne. L'envie, c'était de voir, l'idée, c'était de montrer que dans chacun de ces trois événements, a priori très différents, se rejouaient les deux autres en permanence, quand bien même dans le premier, en fait, s'annonçaient déjà les deux autres. Et ça, on avait le sentiment qu'il n'y avait que par l'écriture qu'on pouvait le faire entendre. C'est-à-dire qu'un analyste politique, à moins de faire un long livre, mais disons, les éditorialistes, etc., sont tenus à l'événement et ne peuvent pas se permettre comme ça des espèces de jeux que tous les historiens et que tous les scientifiques de la politique vont réprouver, quoi. C'est-à-dire qu'a priori, relier le non-CPE à la question de l'Europe, etc., c'était fragile comme idée. Et surtout, le fait de, par exemple, dans un même paragraphe, de passer de l'un à l'autre, voire même de faire des tas d'anachronismes volontaires, c'était réprouvé, sauf dans l'espace littéraire. Donc on s'est dit, tiens, là... Ensuite, on a eu le sentiment que dans ces trois événements-là, c'était la question du peuple qui se posait, et on s'est dit, tiens, ce mot « peuple », il sonne bizarre à nos oreilles. C'est un mot qui n'est plus utilisé vraiment, ou alors de manière très conflictuelle, par exemple par l'extrême droite, etc. Qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui de ce mot « peuple » ? Est-ce qu'on peut arriver à l'habiter autrement ? Est-ce qu'il a un signifié ? Et s'il en a un, quel est-il ? Donc là aussi, c'était une question de langage, et donc en tant qu'auteur, on se sentait... Ensuite, il y avait la question d'aller sur le terrain, de mélanger des expériences de terrain, et qui était aussi là quelque chose qui nous intéressait, c'est-à-dire de surtout pas reproduire l'image d'un auteur qui, comme le font tous les éditorialistes politiques, justement, qui resterait dans son bureau parisien, mais c'était l'idée d'y aller, par exemple. J'étais allé beaucoup dans le quartier de la Source, à Orléans, puisque c'est un quartier avec une histoire très très particulière. Et par rapport aux émeutes, où justement il y a eu très très peu d'émeutes dans ce quartier-là, c'était intéressant d'aller voir pourquoi, d'essayer de comprendre pourquoi, par rapport à la ville d'Orléans qui est un peu plus loin. Donc il y avait plein d'enjeux qui nous semblaient être des enjeux spécifiquement d'écriture. Et puis il y avait cet enjeu au carré qui était de faire peuple nous-mêmes dans le livre. C'est-à-dire à partir du moment où on est trois, c'est plus un couple, c'est le début de quelque chose de beaucoup plus vaste que le couple. Et si nous, on arrivait à être ce peuple-là dans l'énonciation, c'était justement en prenant appui sur ce qu'on avait vu dans ces trois événements-là. Et dans ce qu'on avait vu dans ces trois événements-là, pour le dire par exemple très très rapidement et de manière évidemment très fragile, parce que je le dis très rapidement, mais dans la crise des banlieues, grosso modo, ce qu'on entendait, c'était justement que des analystes qui tiennent encore le haut du crachoir aujourd'hui, et qui disent, voilà, c'était des barbares. Nous, on arrivait en ayant prélevé d'autres éléments factuels dans cette crise-là, et qui nous permettaient de dire l'inverse. C'est-à-dire, non, ce ne sont pas des barbares, c'est au contraire le début de la politique. C'est-à-dire, par exemple, la joie qu'ils éprouvent à être ensemble. Le fait qu'ils passent leur temps à montrer leur carte d'identité française aux caméras qui se pointent, etc. Il y avait pour nous quelque chose là qui était des signes très très forts que les médias ne voulaient pas entendre, ne voulaient pas analyser, et que nous, au contraire, on avait envie justement de récupérer pour essayer de faire entendre autre chose. Et donc, on ne pouvait pas travailler sur cette matière-là, donc la question du peuple, du groupe, du collectif, on ne pouvait pas la travailler en conservant notre petit précaré individuel et en signant chacun de nos fragments. Et c'est ce qu'on a répondu aux éditeurs qui, d'emblée, la seule remarque qu'ils nous ont faite, ça a été justement de vouloir remettre des signatures. On leur a dit, mais non, mais si on fait ça, on détricote tout ce qu'on a tricoté au fil du bouquin. Et le livre, s'il a une intelligence, n'a que celle-là. C'est-à-dire que peut-être que toutes nos analyses sont foireuses ou compliquées, etc., mais s'il a une force, c'est justement là. C'est justement dans le fait de ne pas avoir voulu capitaliser individuellement sur ce truc-là. Et c'est pareil, les gens qui ensuite venaient nous voir en rencontre et nous disaient « Oh, dans ce fragment-là, je t'ai reconnu », ben, ils avaient quasiment tout le temps faux, parce qu'il y avait peut-être un morceau qui était d'Oliver, mais la suite du truc, c'était moi. Et très honnêtement, c'est ce que tu viens de décrire aussi pour une petite fille, il y a des fragments, je me dis « Ah tiens, c'est moi ça », et puis en fait non, après au bout de trois lignes, je me dis « Ah non, mais ça c'est impossible que ce soit moi ». Ensuite, on a le sentiment quand même dans cet anonymat-là, il a une incidence sur nous réelle, c'est-à-dire que tout d'un coup, je suis plus simplement Arnaud Bertina, c'est-à-dire que Oliver, qui a des connaissances sur les questions de constitution, elles nous ont été utiles pour le livre, mais tout d'un coup, moi, je co-signais les fragments où il parlait de constitution. J'adorais me balader, et j'ai pu écrire plusieurs fragments sur les mouvements des CRS, la stratégie des CRS. Oliver, il fait pas ça du tout, mais par la force des choses, il a co-signé ces trucs-là aussi, quoi. Et donc, on a vraiment le sentiment à ce moment-là, une fois qu'on fait disparaître l'étiquette Arnaud Bertina, on a le sentiment de vivre dans plus large, quoi, de s'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus large, quoi. Donc, tout ça, c'est, de mon point de vue, c'est que des expériences heureuses, quoi. C'est-à-dire, on se sent respirer mieux.
Au fond, pour dire ce qu'est un culte, et peut-être ce qui nous regroupe, c'est-à-dire la disponibilité à cette expérience-là, ce sont des expériences de dissolution d'identité, quasiment tout le temps.
Et pardon, mais quand on invite ensuite, dans le cadre des devenirs du roman, quand on invite des auteurs, amis, à écrire, on ne leur demande pas du tout de pousser l'expérience aussi loin, c'est-à-dire qu'ils gardent leur complète individualité. S'ils ont envie de se rapprocher plus, bien sûr que tout est ouvert à tous les vents, donc c'est-à-dire qu'il y en a qui vont, qui viennent, qui sont très présents, moins présents, etc. Je ne sais pas, par exemple, Pierre, quand il nous donne un texte pour les devenirs du roman, c'est pleinement un texte à lui, on ne lui demande absolument pas de se fondre dans ce que l'on fait. Au contraire, c'est nous qui allons vers les autres, quoi. C'est-à-dire, c'est nous qui avons envie de son monde, c'est son monde que l'on désire à ce moment-là quand on lui lance l'invitation. L'invitation, c'est pas « viens donc nous rejoindre ».
Oui, vous vous présentez comme un collectif effectivement très ouvert. Néanmoins, pour définir une collectivité ou une communauté, on peut aussi la définir parce que ça exclut, et notamment tout l'effet de camaraderie, la mise en scène du commun qui apparaît très fortement dans la revue quand vous vous apostrophez, quand vous faites des blagues interne. Bon, on peut se dire que ça a pu peut-être susciter des irritations, des jalousies, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus, sur ce que ça exclut, le collectif ?
Je crois que les textes qui sont concernés par la remarque que tu viens de faire ne sont pas très nombreux, hein, ceci dit. Parce que, comme tout groupe un peu constitué, on peut avoir effectivement un penchant théoréférentiel à la blagounette que nous seuls pouvons comprendre. Mais finalement, je ne crois pas que ce soit très très fréquent.
Non, c'est juste que vous... Il y a des... Je ne sais pas, je pense au numéro sur la poésie, par exemple, ou quand Joy commence son texte en disant « L'Arnaudi m'a dit de lire telle chose ».
Bon, enfin, ça, tout le monde comprend.
Non,
c'est relativement
juste que ça crée un effet.
Oui, mais justement, tu vois, tu prends cet exemple-là, qui a été un dossier, par ailleurs, assez conflictuel pour nous, pour d'autres raisons. Mais notre geste, il est tout sauf fermé sur nous-mêmes, puisqu'il s'agit de dire, bon, ben, de fait, on est plutôt identifié comme romancier, pour ce que ça veut dire, on va prendre le contre-pied de ça, et chacun va lire un livre de poésie, qu'on va se distribuer comme ça, un petit peu au hasard, avec des gens qui ont l'habitude d'en lire, c'était notre cas en plus à tous les deux, donc bon, c'est facile d'en parler, mais avec des gens qui ont beaucoup moins l'habitude d'en lire, et avec le côté aussi, tenir finalement le journal, presque phénoménologique d'une lecture où tu prends un livre et tu te l'emplafonnes et tu vois ce que ça donne, quoi. C'est vraiment aussi simple que ça, ce qui me semble quand même à l'égard d'un champ dans lequel nous n'agissons pas un geste relativement ouvert voire généreux et qui n'a pas nécessairement été compris comme tel.
Mais clairement ce déterritorialisme,
voilà, on n'arrive jamais à le dire, hein. Je me demande comment ils faisaient Deleuze pour le dire tous les jours comme ça. Mais oui, effectivement, c'est de toute façon ce etc. Ça, c'est sûr, c'est parti qu'on prend. Donc, on peut absolument pas dire que ce soit un dossier fermé sur soi et sur l'entre-soi et sur des blagues que nous seuls pouvons comprendre. Après, il se trouve que voilà, Joy, elle n'en lisait pas, justement, de poésie contemporaine. Elle m'a dit, bah, qu'est-ce que je pourrais lire? Et je lui ai dit, bah, tiens, prends ça. Donc, elle a commencé le texte en racontant ça, et puis après, c'est tout.
Après, obligatoirement, un groupe, ça donne tout de suite l'impression d'être fermé. Enfin, je veux dire, c'est presque obligé, quand bien même on ferait tous les efforts du monde pour au contraire insister sur l'idée qu'il est ouvert et qu'on est capable d'agréger des gens qui viendraient de l'extérieur et qui auraient juste envie, et on l'a fait plusieurs fois, de toute façon il y aura toujours des gens pour inventer n'importe quoi derrière. Par exemple, je me souviens d'un éditeur de Saint-Germain-des-Prés qui un jour, mais il n'y a pas si longtemps que ça, un jour a dit un culte, c'est les stars de la com. Mais enfin, de l'intérieur, mais il n'y a pas plus gros mensonge que ça, quoi. Parce que justement, si on avait été des stars de la com, on aurait tout de suite fait un manifeste, on se serait tout de suite arrangé pour poser torse nu dans un magazine, et puis c'était réglé.
Maintenant, à l'époque.
Non, mais c'était réglé. Donc on n'a pas fait tout ça. Donc ensuite, s'entendre dire qu'on est les stars de la com, ça fait doucement rire, quoi. T'es obligé de... Enfin, voilà, ça n'a pas d'incidence. Après, des fois, il y a des... Par exemple, moi, il y a une remarque qui m'a beaucoup, beaucoup marqué et que je pense assez juste. Mais c'est très compliqué d'y répondre. Par exemple, j'ai un ami qui nous regarde d'un peu loin. Et lui, ce qu'il écrit, c'est vraiment très, très différent. Et il m'a dit, mais un culte, mais c'est chargé jusqu'à la gueule de testostérone. Et ça, ça m'a vexé parce que, justement, on fait très attention à... Mais je me suis dit, tiens, si ça me vexe, attention, il y a quelque chose, si ça se trouve, il pointe quelque chose de juste, en fait. Et je pense que c'est vrai, et qu'on s'est peut-être trop abrité derrière le fait qu'il y a des filles dans le collectif, mais que c'est vrai que peut-être le rapport au monde qui s'exprime, quand bien même il s'exprimerait justement en termes généraux, des fois, etc., et bien je pense qu'en fait, il est peut-être très marqué par... l'idée de la bande de garçons, quoi. Et que obligatoirement dans ce cas-là, c'est notre regard sur le monde qui n'intègre qu'une petite partie du monde et pas la totalité du monde, quoi. Et donc ça, maintenant, ça c'est des trucs on y est peut-être beaucoup plus sensible maintenant qu'à l'époque.
Mais on l'est devenu parce que c'est comme tout le reste, ça s'est fait en acte. C'est-à-dire qu'on s'en est rendu compte au cours du temps, parce que justement, quand la bande en question s'est constituée, on s'est pas dit, bah toi t'es une fille, donc on veut pas de toi. C'est pas du tout comme ça. C'est que ça s'est fait de façon totalement empirique sur le tas, on devrait dire, et que d'emblée, effectivement, des filles avec nous, il y en avait trois, quoi. Il y avait Joy, Maëlys et Hélène Gaudy qui sont comme. Alors après, quand les gens nous disent ça, je me souviens avoir entendu ça à un moment où le collectif, en gros, c'était 9 personnes. Sur les 3, il y a 3 femmes. Sur les 9, il y a 3 femmes. Je me disais, c'est quand même les tenir un peu pour pas grand-chose que de penser que l'œuvre de Maëlys ne compte pas ou presque pas, quoi. C'est quand même...
On peut dire qu'il est arrivé un peu plus tard, Maëlys, 2008.
Ouais, il est arrivé un peu plus tard.
Ouais, enfin...
Non, mais c'est pas seulement ça, c'est que peut-être Maëlys et Joy sont justement pas dans un regard qui serait proprement un regard féminin.
C'est quoi un regard proprement féminin? Bon, là, c'est d'autres...
C'est un autre...
ceci dit, je dis ça un peu par boutade, c'est vrai que... Et d'ailleurs, on en a évidemment parlé... C'est vrai qu'on a un côté bande de mecs à l'origine et qu'il faut à la fois l'assumer et aussi essayer de le casser un peu.
Ouais, moi, il me semble que vous essayez de... récemment, vous avez fait paraître le collectif en procès et vous l'avez enrichi par rapport au volume 17 de la revue. Et parmi cet enrichissement, parmi les contributeurs, pardon, il y a plus de femmes, évidemment, que dans le premier volume. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire pour rectifier, réajuster.
C'est pas complètement volontaire. C'est-à-dire qu'on a l'œil quand même un petit peu là-dessus, mais on ne s'est pas dit, bah, tiens, on va appliquer la parité, parce que d'ailleurs, elle n'y est pas, la parité. Voilà, il se trouve que au fil des conversations, des envies qu'on a de travailler avec les uns les autres, et surtout aux gens dont on pensait que pour eux ça pouvait faire sens de participer à un projet comme celui-là, il y avait des femmes.
Alors, une dernière question, justement parce que ça me semble quand même important, puis après on donnera la parole à la salle, c'est la visibilité du groupe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On connaît évidemment le blog de Claro, Clavier Cannibal, et aussi votre présence quand même assez importante sur Facebook. Cette présence sur les réseaux sociaux change par rapport au collectif? Est-ce que c'est une façon de prolonger l'esprit du collectif? Quel usage vous avez de cette... cette présence sur Facebook.
J'allais dire que par définition, non, pas trop, puisque précisément, un réseau social, on a d'autres contacts que les gens du collectif. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est là, pour le coup, on interagit avec plein de gens qui ne font absolument pas partie du collectif, qui d'ailleurs ne savent pas nécessairement bien ce que c'est, etc. Après, on se renvoie parfois effectivement les uns aux autres un peu dans des événements, à l'occasion de parutions comme ça, mais même pas de façon frénétique hein. En fait, il y a une page inculte, mais qui est plus une page qui tient au courant les gens qui s'y sont inscrits des parutions et de l'actualité de la maison d'édition. Donc moi j'ai plutôt l'impression que les réseaux sociaux viennent un peu perturber l'agencement collectif restreint sur soi qu'on pourrait être, quoi. Et après, quant à l'utilisation éventuelle de cet outil-là comme outil de visibilité, là, entre nous, on n'a pas du tout tous le même rapport. C'est-à-dire que y en a qui n'y sont pas du tout. Maïlis, Joy, n'y sont pas. Moi, par exemple, un vieux fond janséniste fait que j'ai beaucoup de mal à partager quoi que ce soit qui puisse me concerner dans la presse. Donc, c'est extrêmement rare. Je crois que ça ne m'est arrivé qu'une seule fois que je... Parce que, oui, c'était l'article de Chevillard sur un de mes bouquins. Et le problème, c'est que l'article est paru un jour où il y a eu une grève. Et donc, Le Monde n'avait pas été distribué. Et là, j'étais quand même un peu énervé. Je me suis dit, ah merde, il y a Chevillard qui écrit sur mes livres. Donc là, j'ai partagé l'article. Mais c'est la seule fois, je crois, que je l'ai fait. Alors par contre, ce que j'annonce, c'est quand il y a, comme là, par exemple, je l'ai mis sur ma page. Parce que quand il y a des choses publiques où je peux inviter des gens, bon, bah, il me paraît normal d'utiliser cet outil-là simplement pour tenir les gens au courant. Par contre, tout l'aspect promotionnel, je ne le fais pas.
C'est un espace pour déconner, Facebook,
oui,
et puis aussi en ce moment beaucoup pour être informé des lieux de manif. Et...
Oui, au fond c'est ça, on en a quand même surtout cet usage-là, mais je trouve que c'est un bon endroit pour envoyer des blagues aux copains.
Et les lieux de manif.
Et les lieux de manif, ça peut être des blagues aussi.